Saïdia Goma pour VOA Afrique.
Voilà, merci beaucoup Zeni. Place à nos invités maintenant pour décortiquer tout cela. À Kinshasa, nous avons Bob Kabamba, il est politologue, professeur à l'université de Liège en Belgique. À Goma, Regan Miviri, avocat au barreau du Nord Kivu et analyste au baromètre sécuritaire du Kivu. Et de nos studios de Paris, Jean-Victor Collot, vous avez servi dans 10 missions de maintien de la paix sur 3 continents et vous êtes également ancien porte-parole de 3 présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci à tous. Alors je démarre avec vous, Bob Kabamba. Le débat sur le départ de la MONUSCO après 22 ans de présence n'est pas nouveau en RDC, mais qu'est-ce qui a fait dégénérer la situation pour aboutir à cette violence qu'on a constatée dernièrement?
Merci pour la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un certain temps, il y a eu une montée en puissance de l'insécurité dans la région de l'Est. La MONUSCO a concentré la plupart de ses forces dans cette région. Et l'État, malheureusement, l'État congolais est de plus en plus absent dans cette partie du pays. Et face à cette insécurité, la population, qu'est-ce qu'elle a comme alternative pour pouvoir revendiquer et manifester le fait qu'elle en a assez? Normalement, elle doit manifester contre l'État, mais l'État n'est pas présent. La seule institution qui est présente, c'est la MONUSCO qui est présente. L'institution la plus visible, c'est la MONUSCO. Et comme la MONUSCO, d'ailleurs, communique très mal sur ses mandats, notamment au sujet de la protection des civils et aussi l'éradication des kidnappés, alors de ce fait-là, toute la tension, toute la sécurité, toute la colère de la population, au lieu d'aller vers l'État qui est le plus, va plutôt vers la MONUSCO, d'où est véritablement cette montée en puissance de la colère.
D'accord. Alors, Regan, est-ce que vous comprenez un peu la colère des populations ou bien vous pensez qu'il y a incompréhension sur la mission de la MONUSCO?
Personnellement, je comprends cette colère et je dois dire aussi que c'est une colère qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc il y a eu assez de temps pour comprendre les revendications de la population, mais aussi peut-être trouver une solution à celle-ci. Donc quand on parle des capacités de la mission, c'est un fait en fait. La MONUSCO semble dire qu'en fait on ne comprend pas le mandat, mais en fait le mandat il est clair, c'est la protection des civils. Et quand les civils ne sont pas protégés, et donc la population dit en fait que alors vous n'accomplissez pas votre mandat. C'est très simple comme ça. Bien sûr qu'on fait un peu le nuancé, mais je comprends ça, mais je ne comprends pas peut-être pas, ou je ne fonctionne pas à la violence, mais je comprends les revendications. Et la MONUSCO devrait comprendre d'ailleurs.
D'accord. Alors Jean-Victor Collot, on a les 3 grands principes des opérations, le maintien de la paix, consentement des parties, impartialité et non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Alors avec les incidents dans l'est de la RDC où des civils sont tombés sous les balles des casques bleus, notamment dans le cas des soldats onusiens de retour de congé qui ont tiré sur la foule à Kassindi, tous ces incidents ne fragilisent n'est-il pas davantage l'image de l'ONU?
Effectivement, nous sommes dans un tournant assez difficile pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU, pas seulement en Afrique, mais peut-être aussi ailleurs. Mais il faut d'abord peut-être commencer par saluer la mémoire des Congolais et des non-Congolais qui sont tombés au cours des derniers incidents, non seulement les populations civiles, mais aussi les casques bleus. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les casques bleus tombent au Congo, que ce soit par accident ou dans des accrochages. Il y a effectivement une fragilisation, mais je crois que cela est quelque part inhérent à la nature même des opérations de maintien de la paix. Alors quand les hauts responsables des Nations Unies vont briefer le Conseil de sécurité aujourd'hui, je pense qu'ils auront peut-être là une occasion pour donner au Conseil de sécurité la possibilité de réorganiser fondamentalement et de peut-être redéfinir la nature de ces opérations. Parce que la MONUSCO est peut-être là depuis plus de 2 décennies, mais l'ONU est au Congo depuis beaucoup plus longtemps que cela. Et on se souvient des années 60, des années 70, des années 80, l'ONU a pratiquement toujours été au Congo depuis les années d'indépendance. Il va donc peut-être falloir au niveau du Conseil de sécurité redéfinir un nouveau modus operandi, car le Congo est véritablement l'épitome de ce qu'il faut revoir. C'est d'accord. Véritablement là la responsabilité du Conseil de sécurité.
D'accord. Alors, Bob Kabamba, j'espère que vous êtes avec nous. Alors, la protection des civils fait partie du mandat des casques bleus. Est-ce que ce n'est pas un peu un aveu d'échec lorsque le porte-parole de la MONUSCO, dont Kinshasa demande d'ailleurs le départ, reconnaît qu'elle n'a pas les moyens de faire face au M23?
Oui. C'est une erreur car on se pose véritablement une question qui est fondamentale. Quand on regarde le contexte, nous regardons le terrain, nous regardons l'étendue de la zone qui est concernée, et on regarde ce qu'il y a en face, c'est-à-dire c'est que la MONUSCO a beaucoup d'éléments à mettre à disposition pour lutter contre la sécurité. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce d'incompatibilité d'une part, entre une adéquation entre les moyens mis en place et les problèmes tels qu'ils se passent sur le terrain. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le fait que pour une fois, on a quand même un discours de la MONUSCO qui indique clairement qu'ils sont incapables de pouvoir gérer la situation. Alors là, d'une façon claire, la MONUSCO avoue son impuissance et par rapport à la population, cet arrêt d'impuissance fait remonter la colère de celle-ci.
Alors, Reagan, Mévéry, j'ai quand même envie de demander les FARDC dans tout cela, l'armée congolaise.
Oui, ben, c'est sûr que la première responsabilité de la protection des civils revient au FARDC, mais c'est exactement parce que celle-ci n'était pas capable, peut-être ne sont pas encore capables de protéger la population que la MONUSCO a été appelée à la rescousse. Et donc la MONUSCO ne peut pas aussi utiliser ça comme excuse en disant non, ben, c'est au FARDC de faire. Mais en fait, si elle est venue ici, c'est parce que la FARDC n'y arrivait pas. Et donc, soit ils réalisent leur mandat avec des limites qu'on peut comprendre, qui peuvent aussi être liées au contexte. Mais en même temps qu'il y a cette frustration et qu'il y a ces demandes qui sont adressées à la MONUSCO, en même temps on a vu des manifestations pour demander plus d'implication des FARDC ou peut-être pour demander la fin de l'état de siège qui a échoué. Et donc on ne peut pas dire que la population ne vise que la MONUSCO. Autant qu'elle vise la MONUSCO, elle vise aussi l'autre acteur et le plus grand acteur qui d'ailleurs a aussi échoué, et c'est le gouvernement congolais, le Conseil sécuritaire en tout cas.
Et justement, Jean-Victor, puisque vous avez travaillé dans une dizaine de missions de maintien de la paix à travers le monde, comment est-ce que s'articule normalement la coopération entre armée nationale et ces opérations onusiennes? Où se situe la responsabilité des uns et des autres?
Cette coopération est toujours l'objet d'un accord. Mais avant même cet accord, il faut toujours rappeler que les missions de maintien de la paix sont dans les pays et jouent leur rôle dans les pays à l'invitation des États souverains. Donc il n'y a ni surprise, ni risque de malentendu. En réalité, il y a une sorte de différence entre ce qui est défini dans les résolutions qui sont très bien écrites, très bien négociées, et ce qui se passe sur le terrain. Et par rapport à la responsabilité des uns et des autres, je resterai très prudent pour ce qui concerne le Congo. J'ai moi-même servi comme porte-parole dans certaines missions de maintien de la paix, et j'ai servi deux fois déjà au moins au Congo, dans les années 90, en 1994, et plus récemment en 2005-2006. Et je dois dire que le Congo est un pays très important. J'ai beaucoup d'affection pour ce pays formidable, ce sous-continent, et je connais personnellement les principaux acteurs, la chef de mission qui est une très grande dame, une très grande africaine, Madame Bintou Keïta, et les autres responsables. Je connais les porte-paroles qui sont impliqués ici et là. Et c'est souvent difficile, n'est-ce pas, de porter la critique quand on ne se rappelle pas que le Congo est une situation véritablement complexe. On ne peut pas ignorer non seulement les considérations internationales, les considérations sous-régionales, régional, mais aussi national. C'est donc une situation qui a beaucoup de volets et il serait un peu imprudent, n'est-ce pas, d'attribuer des responsabilités directes ou indirectes. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le Congo représente véritablement une chance. Il faut regretter les incidents qu'il y a eu et saluer la mémoire des victimes, mais il faut dire que c'est véritablement ici une occasion pour revoir le modus operandi, non seulement pour ce qui se passe au Congo dans le maintien de la paix, mais dans le maintien de la paix en général.
D'accord. Alors, on va rapidement, on va lire rapidement quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est à N'Djamena. Il dit « Les missions de l'ONU font face à des protestations en RDC, en Centrafrique et au Mali, car elles ne sont plus des forces qui protègent les populations contre les attaques des différents groupes armés. Leur présence n'est plus avantageuse. » Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit « Les opérations de maintien de la paix en Afrique, qui se résument le plus souvent à une force d'interposition, ont montré leurs limites. Les armées africaines devront s'équiper en moyens logistiques et se former pour plus d'efficacité face au M23 et au groupe djihadiste. » Et puis Jérémy Benja est à Bukavu. Il se demande qui prendra le relais d'un échec. Eh bien, au moins ces gouvernements seront face à leurs responsabilités. Et la notion de souveraineté n'est pas uniquement une notion occidentale. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
La première, des 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, des 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. C'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités à Kinshasa, Bob Kabamba, politologue, professeur à l'Université de Liège, à Goma, Regan Miviri, avocat et analyste au baromètre sécuritaire du Kivu, et de notre studio à Paris, Jean-Victor Collot, qui a servi dans 10 missions de maintien de la paix de l'ONU sur 3 continents. Alors, Bob Kabamba, entre les sentiments d'hostilité envers cette mission ONU, constatée au Mali, en RDC, même en Centrafrique, faut-il repenser la notion même de maintien de la paix?
Oui, il faut véritablement repenser les opérations de maintien de la paix. Lorsqu'on regarde la littérature, on nous parle qu'il y a une troisième génération des opérations de maintien de la paix qui sont en train d'être préparées pour être mises en œuvre. Puisque les conflits sont de plus en plus complexes et où interviennent vraiment, véritablement, toute une série d'acteurs, qui sont des acteurs non étatiques, des problèmes d'acteurs religieux, des acteurs internationaux, régionaux, et ça devient une espèce de complexité telle qu'on n'arrive pas à arriver à avoir une réponse claire des maintien de la paix. Ce qu'il faudrait, de mon point de vue, en termes d'action, c'est d'abord la refondation des États africains. Il ne faut pas oublier que la plupart des États africains...
Je crois qu'on a perdu un peu l'audio de Bob. On va peut-être revenir vers vous. Alors, Redan, que signifierait peut-être pour une ville comme Goma le départ de ces forces onusiennes?
Il faut dire que exactement le prix qui va se ressentir, ça signifierait qu'en fait, il n'y aura que les FARDC peut-être sortis côté pour la protection des civils. Je pense que c'est exactement ce que la population demande. La population veut savoir qu'il y a un seul responsable de cette protection des civils. Et ils savent maintenant que voilà, s'il y a des situations, s'il y a des demandes, ils seront adressés à cet acteur-là et ça fait le gouvernement pour eux. Mais aussi, bah, peut-être les pandémies, nos mythes, ça pourrait avoir un impact parce que c'est beaucoup de bureaux, c'est en tout cas une partie de la population de la ville en fait qui partirait avec ceci. Bon, on ne sait pas le chiffre, mais bien sûr, ça sera ressenti. Mais au-delà de ça, il faut dire en fait que ça serait une opportunité pour que l'on puisse avoir le gouvernement et qu'il respecte ses responsabilités et qu'il ne puisse pas avoir aussi un bouc émissaire pour. Chaque fois qu'il reçoit des critiques.
D'accord. Jean-Victoire, j'ai envie aussi de demander, est-ce qu'il faut carrément arrêter d'envoyer des forces de maintien de la paix en Afrique ou faut-il des mandats plus robustes?
Que ce soit en Afrique ou ailleurs, je ne vois pas le remplacement ou alors l'autre option qui remplacerait les Nations Unies qui constituent véritablement la chance du multilatéralisme aujourd'hui. Il n'y a pas une autre organisation au sein de laquelle ou avec laquelle on peut résoudre les problèmes complexes qui intéressent ou qui affectent les États, les régions ou même parfois le monde. Et on le voit très bien avec les crises actuelles. La véritable question que l'on doit se poser sur la question du Congo, c'est la suivante. Si les Nations Unies devaient partir demain, est-ce que ça résoudrait le problème? On peut dire très aisément que non. La question est de savoir quelle est la nouvelle formule qui va être appliquée, parce qu'il faut rappeler que la MONUSCO elle-même est une entité qui est venue après d'autres missions de maintien de la paix. Avant cela, il y avait la MONUC, il y avait d'autres missions de maintien de la paix. Donc il faut une sorte de ordinamento, il faut une sorte de redéfinition avec un mandat véritablement clair. Mais avant un mandat international onusien, il faut aussi rappeler, comme l'ont dit mes confrères, il faut aussi rappeler que la primauté de la protection des civils et de la protection d'un pays revient d'abord à l'État. Donc la nécessité d'appuyer, n'est-ce pas, l'État congolais dans son déploiement effectif, non seulement aux frontières, mais aussi au sein des territoires. Et c'est pour cela qu'il faut saluer la célérité, la transparence dont ont fait preuve les responsables de la MONUSCO, M. Rassim Diagne, Mme Bitou Keïta et les autres, et pour dire que peut-être qu'une collaboration encore plus étroite, plus franche, plus effective entre l'ONU et les autorités congolaises va peut-être aboutir à un mode opératoire encore plus efficace. Encore faut-il que le Conseil de sécurité, dans ce cas-là, prenne ses responsabilités.
Alors Bob Kabamba, de toute façon, il y a un plan de retrait des troupes onusiennes à l'horizon 2024.
Oui, il y a un plan de retrait à l'horizon 2024, mais ce plan va être révisé pour pouvoir l'accélérer. Et cette demande
vient... Oh là là, nous avons... Oui, allez-y.
La nouvelle demande va arriver de la part du gouvernement congolais, qui va certainement demander d'accélérer ce processus. Et ce processus, cette demande est dictée par l'opinion publique de l'Est du Congo qui appuie véritablement cette demande d'accélération. Alors ce qu'il faut aussi se dire, le départ de la MONUSCO ne va pas résoudre le problème du Congo. Ne va pas résoudre le problème de...
Décidément, on a vraiment quelques soucis avec Kinshasa. On espère vous retrouver tout de suite là. Alors, Regan, j'ai envie aussi de demander, certains qui réclament le départ des forces régionales, mais d'autres veulent la mise en place de forces régionales à la place de ces soldats onusiens. On a vu que pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, le G5 Sahel est devenu moribond depuis que le Mali en est sorti. Qu'est-ce qui peut être la meilleure solution? Je sais qu'il y a une force régionale est-africaine qui est aussi prévue pour la RDC. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit?
Je ne le pense pas. Je ne pense pas que la force régionale puisse changer grand-chose. D'ailleurs, je pense que ça pourrait plutôt envenimer les conflits et les situations d'insécurité qui sont déjà là, parce que les différents États qui sont invités dans cette force régionale ont une implication dans une certaine mesure de ce qui se passe ici. Donc, moi, si on me demandait ce qu'il faut, c'est l'État et encore l'État. Donc, tout acteur qui veut aider devrait participer plutôt à la refondation de l'État congolais. Parce que je pense que c'est ce qu'on n'a jamais essayé. Pourtant, c'est ce qu'il faut essayer. Donc, je pense, voilà, là, les réformes de l'armée, donner plus de moyens à l'armée, mais aussi, en fait, donner plus de moyens à la justice, de moyens juridiques, mais aussi de moyens matériels à la justice, pour qu'en fait, en même temps que l'on résout des questions sur les plans sécuritaires, on résolve aussi le passif judiciaire, parce qu'il y a cette question de justice, il y a beaucoup de crimes qui ont été commis dans cette région, et je pense que ces crimes-là, et l'impunité qui s'ensuit, fait que on continue encore à respecter les mêmes acteurs et les mêmes acteurs viennent commettre les mêmes crimes encore. Donc je pense que c'est important plutôt d'aller dans la vision de reconstruire un État. Et pendant les 20 ans, les plus de 20 ans de la présence de la MONUSCO, elle aurait dû plutôt focaliser une grande partie de ses efforts sur aider l'État congolais à exister.
Et vous, Jean-Victor, des soldats régionaux à la place des soldats de l'ONU, c'est une solution que...
Ce n'est pas fondamentalement ou essentiellement ou uniquement une solution militaire ou une solution tactique. Je pense qu'il faut aussi voir la question sous-régionale. Il faut que les frères africains dans la région des Grands Lacs s'assoient, se parlent franchement et prennent des décisions. Il faut aussi, je pense, aider, comme l'a dit le frère à Goma, il faut aider l'État congolais à se déployer, à être plus fort que par le passé et à être encore plus fort parce que les crises sont multiformes et comme l'a dit M. Kabamba, il y a d'autres acteurs de nouvelle nature. Il y a par exemple des djihadistes, des islamistes qui s'intègrent maintenant dans cette dynamique du conflit. Donc ce n'est pas seulement une question, la question militaire est importante, mais je pense qu'il faut aussi résoudre la question politique, la question sous-régionale et la question géopolitique et faire confiance à l'implication sur le plan politique au moins des organisations régionales et sous-régionales. Les premières responsabilités, c'est celle du gouvernement et de l'État congolais. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devra donc prendre toutes les mesures qui contribuent à solidifier et à déployer de manière efficace l'État congolais, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan administratif, politique et économique.
Oui, donc peut-être on va terminer avec Bob Kabamba. Dans ce sens, cette idée de force régionale est-africaine, comment est-ce que vous la voyez? Le gouvernement congolais, à Nairobi en tout cas, avait donné son accord.
Oui, à mon avis, ça va être encore la même chose. On va remplacer la MONUSCO par les forces régionales. Malheureusement, les problèmes ne seront pas résolus. Et ces mêmes forces régionales, vous devez et savoir, sont aussi des acteurs du problème. Ce sont aussi des acteurs du problème pour vous. L'Ouganda est présent au Congo, le Rwanda est présent au Congo, le Burundi est déjà présent au Congo. Et donc, transformer ces différentes forces en forces régionales ne va pas résoudre le problème tant que le Congo, comme je dis mes collègues, n'arrivera pas à se refonder. Et donc, les problèmes seront les mêmes et vous allez voir que la colère des Congolais ne va plus aller vers le gouvernement, risquer d'aller vers les forces régionales, et donc on reviendrait à la case départ et on n'aura pas résolu les problèmes de la population congolaise.
Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
L'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les... d'inspiration africaine.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est
nous,
c'est vous et nous.